Chapitre 2. Ce fut à midi précis qu'on se mit à table, selon la coutume ironique de ces irrévérents moqueurs, qui profitaient des moindres choses pour montrer leur mépris de l'Église. Une idée de ce pieux pays de l'Ouest est de croire que le pape se met à table à midi et qu'avant de s'y mettre, il envoie sa bénédiction à tout l'univers chrétien. Eh bien, cette auguste bénédicité paraissait comique à ces libres penseurs. Aussi, pour s'engausser, le vieux monsieur de Ménilgrand ne manquait jamais, quand le premier coup de midi sonnait au double clocher de la ville, de dire du plus haut de sa voix de tête, avec ce sourire voltairien qui fendait parfois en deux son immobile face lunaire, « À table, messieurs !» Des chrétiens comme nous ne doivent pas se priver de la bénédiction du pape. Et ce mot, ou l'équivalent, était comme un tremplin tendu aux impiétés qui allaient y bondir à travers toutes les conversations échevelées d'un dîner d'hommes et d'hommes comme eux. En thèse générale, on peut dire que tous les dîners d'hommes où ne préside pas l'harmonieux génie d'une maîtresse de maison où ne plane pas l'influence apaisante d'une femme qui jette sa grâce comme un caducé entre les grosses vanités, les prétentions criantes, les colères sanguines et bêtes, même chez les gens d'esprit, des hommes attablés entre eux, sont presque toujours d'effroyables, mêlés de personnalités prêtes à finir toutes comme le festin des Lapithes et des Centaures, où il n'y avait peut-être pas de femme non plus. En ces sortes de repas découronnés de femmes, les hommes les plus polis et les mieux élevés perdent de leur charme de politesse et de leur distinction naturelle. Et quoi d'étonnant ? Ils n'ont plus la galerie à laquelle ils veulent plaire, et ils contractent immédiatement quelque chose de sans gêne qui devient grossier au moindre attouchement, au moindre choc des esprits les uns par les autres. L'égoïsme, l'inexilable égoïsme, que l'art du monde est de voiler sous des formes aimables, met bientôt les coudes sur la table, en attendant qu'il vous les mette dans les côtés. Or, s'il en est ainsi pour les plus athéniens des hommes, que devait-il en être pour les convives de l'hôtel Ménilgrand, pour ces espèces de belluaires et de gladiateurs, ces gens de clubs jacobins et de bivouacs militaires qui se croyaient toujours un peu au bivouac ou au club, et parfois encore en pire lieu. Difficilement peut-on s'imaginer, quand on ne les a pas entendus, les conversations à bâtons rompus et à vitres et verres cassés de ces hommes grands mangeurs, grands buveurs, bourrés de victuailles étouffantes, incendiés de vins capiteux et qui, avant le troisième service, avaient lâché la bride à tous les propos et fait feu des quatre pieds dans leurs assiettes. Ce n'étaient pas toujours des impiétés du reste qui étaient le fond de ces conversations, mais c'en étaient les fleurs, et on peut dire qu'il y en avait dans tous les vases. Songez donc. C'était le temps où Paul-Louis Courier, qui aurait très bien figuré à ces dîners-là, écrivait cette phrase pour fouetter le sang à la France. La question est maintenant de savoir si nous serons capucins ou laquais. Mais ce n'était pas tout. D'après la politique, la haine des Bourbons, le spectre noir de la congrégation, les regrets du passé pour ses vaincus, toutes ces avalanches qui roulaient en bouillonnant d'un bout à l'autre de cette table fumante, il y avait d'autres sujets de conversation à tempête et à tintamarre. Par exemple, il y avait les femmes. La femme est l'éternel sujet de conversation des hommes entre eux, surtout en France, le pays le plus fat de la terre. Il y avait les femmes en général et les femmes en particulier, les femmes de l'univers et celles de la porte à côté, les femmes des pays que beaucoup de ces soldats avaient parcourus en faisant les beaux dans leurs grands uniformes victorieux, et celles de la ville chez lesquelles ils n'allaient peut-être pas et qu'ils nommaient insolemment par nom et prénom, comme s'ils les avaient intimement connues, sur le compte de qui, parbleu, il ne se gênait pas, et dont, au dessert, il pelait en riant la réputation comme il pelait une pêche, pour après en casser le noyau. Tous prenaient part à ces bombardements de femmes, même les plus vieux, les plus coriaces, les plus dégoûtés de la femelle, ainsi qu'ils disaient cyniquement. Car les hommes peuvent renoncer à l'amour malpropre, mais jamais à l'amour propre de la femme. Et, fût-ce sur le bord de leur fosse ouverte, ils sont toujours prêts à tremper leur museau dans ces galimafrés de fatuité. Et ils les y trempèrent ce jour-là, jusqu'aux oreilles, à ce dîner qui fut comme déchaînement de langue le plus corsé de tous ceux que le vieux M. de Ménilgrand eut donné. Dans cette salle à manger, présentement muette, mais dont les murs nous en diraient de si belles qu'ils s'y pouvaient parler, puisqu'ils auraient ce que je n'ai pas, moi, l'impassibilité des murs, l'heure des ventries qui arrive est si vite dans les dîners d'hommes, d'abord décentes, puis indécentes bientôt, puis déboutonnées, enfin chemise levée et sans vergogne, amena les anecdotes et chacun raconta la sienne. Ce fut comme une confession de démons. Tous ces insolents railleurs, qui n'auraient pas eu assez de brocard pour la confession d'un pauvre moine, dit à haute voix, au pied de son supérieur, en présence des frères de son ordre, firent absolument la même chose, non pour s'humilier comme le moine, mais pour s'enorgueillir et se vanter de l'abomination de leur vie. Et tous, plus ou moins, crachèrent en haut leur âme contre Dieu, leur âme qui, à mesure qu'ils la crachèrent, leur retomba sur la figure. Or, au milieu de ce débordement de forfanterie de toute espèce, il y en eut une qui parut, est-ce plus piquante qu'il faut dire ? Non, plus piquante ne serait pas un mot assez fort, mais plus poivrée, plus épicée, plus digne du palais de feu de ces frénétiques qui, en fait d'histoire, eussent avalé du vitriol. Celui qui la raconta, de tous ces diables, était le plus froid, cependant. Il l'était comme le derrière de Satan, car le derrière de Satan, malgré le champ de fer qui le chauffe, est très froid, disent les sorcières qui le baisent à la messe noire du sabbat. C'était un certain et ci-devant abbé reniant, un nom fatidique, lequel, dans cette société à l'envers de la Révolution, quittait faisait tout, s'était fait de son chef, de prêtre sans foi, médecin sans science et qui pratiquait clandestinement un empirisme suspect et, qui sait, peut-être meurtrier. Avec les hommes instruits, il ne convenait pas de son industrie. Mais il avait persuadé aux gens des basses classes de la ville et des environs qu'il en savait plus long que tous les médecins à brevet et à diplôme. On disait mystérieusement qu'il avait des secrets pour guérir. Des secrets. Ah, ce grand mot qui répond à tout parce qu'il ne répond à rien. Le cheval de bataille de tous les empiriques, qui sont maintenant tout ce qui reste des sorciers, si puissants jadis sur l'imagination populaire. Ce ci-devant abbé reniant, car, disait-il avec colère, ce diable de titre d'abbé était comme une teigne sur son nom, que toutes les calottes de Bray n'auraient pu jamais en arracher, ne se livrait point par amour du gain à ces fabrications cachées de remèdes qui pouvaient être des empoisonnements. Il avait de quoi vivre. Mais il obéissait aux démons dangereux des expériences, qui commencent par traiter la vie humaine comme une matière à expérimentation, et qui finit par faire des Sainte-Croix et des Brinvilliers. Nous vous envoyons avoir affaire avec les médecins patentés, comme ils les appelaient d'un ton de mépris. Il était le propre apothicaire de ces drogues, et il vendait ou donnait ses breuvages, car bien souvent il les donnait, à condition pourtant qu'on lui en rapportât les bouteilles. Ce coquin, qui n'était pas un sot, savait intéresser les passions de ses malades à sa médecine. Il donnait du vin blanc mêlé à je ne sais quelles herbailles, aux hydropiques par ivrognerie et aux filles embarrassées, disaient les paysans en clignant de l'œil, des tisanes qui tout de même faisaient fondre leurs embarras. C'était un homme de taille moyenne, de mine frigide et discrète, vêtu dans le genre du vieux monsieur de Ménilgrand, mais en bleu, portant autour d'une figure de la couleur du lin qui n'a pas été blanchi, des cheveux en rond, la seule chose qu'il eût gardée du prêtre, d'une odieuse nuance filasse et droit comme des chandelles, peu parleur et compendieux quand il se mettait à parler, froid et propre comme la crémaillère d'une cheminée hollandaise, en ces dîners où l'on disait tout et où il sirotait mièvreusement son vin dans son angle de table quand les autres lampaient le leur. Mais il plaisait peu à ces bouillants qui le comparaient à du vin tourné de Sainte-Nitouche, un vignoble de leur invention. Mais cet air-là ne donna que plus de ragoût à son histoire quand il dit modestement que, pour lui, ce qu'il avait fait de mieux contre l'infâme de M. de Voltaire, ça avait été un jour, dame, on fait ce qu'on peut, de donner un paquet d'hosties à des cochons. À ce mot-là, il y eut un tonnerre d'interjections triomphantes. Mais le vieux M. de Ménilgrand le coupa de sa voix incisive et grêle. « C'est sans doute, dit-il, la dernière fois, l'abbé, que vous avez donné la communion. » Et le pince sans rire mit sa main blanche et sèche au-dessus de ses yeux pour voir le reniant posé maigrement derrière son verre entre les deux larges poitrines de ses deux voisins, le capitaine Rançonnet, empourpré et flambant comme une torche, et le capitaine au sixième cuirassier, travers de mots travers, qui ressemblait à un caisson. Ben, il y avait déjà longtemps que je ne la donnais plus, reprit le ci-devant prêtre, et que j'avais jeté ma souquenille aux orties du chemin. C'était en pleine révolution, le temps où vous étiez ici, citoyen de Carpentier, en tournée de représentant du peuple. Vous vous rappelez bien une jeune fille d'Emves que vous fîtes mettre à la maison d'arrêt? Une enragée, une épileptique. Tiens, dit Montravers, il y a une femme mêlée aux hosties. L'avez-vous aussi donnée au cochon? Bah, tu te crois spirituel, Montravers, fit Rançonnet. Mais n'interrompons pas l'abbé. L'abbé, allez, finissez-nous l'histoire. Ah, l'histoire, reprit Rognan, sera bientôt contée. Je disais donc, monsieur le Carpentier, cette fille des mauvaises, vous en souvenez-vous? On l'appelait la Tesson, Joséphine Tesson, si j'ai bonne mémoire, une grosse mafiée, une espèce de mari à la coque pour le tempérament sanguin, l'âme damnée des chouans et des prêtres, qui lui avait allumé le sang, qui l'avait fanatisée et rendue folle. Mais elle passait sa vie à les cacher, les prêtres. Quand il s'agissait d'en sauver un, elle lui bravait 30 guillotines. Ah, les ministres du Seigneur, comme elle les nommait, eh bien, elle les cachait chez elle et partout. Elle les eût cachés sous son lit, dans son lit, sous ses jupes, et s'ils avaient pu y tenir, elles auraient tous fourrés et tassés. Le diable m'emporte là où elle avait mis leur boîte à hostie, entre ses tétons. « 1000 bombes !» fit Rançonnet exalté. « Non, pas 1000, mais 2 seulement, monsieur Rançonnet, » dit en riant de son calembour le vieux apostat libertin. « Mais elles étaient de fier calibre. » Le calembour trouva de l'écho, ce fut une risée. « Singulier si boire qu'une gorge de femme, » fit le docteur Blény, rêveur. « Ah, le ciboire de la nécessité !» reprit Rognan, à qui le flegme était déjà revenu. « Tous ces prêtres qu'elle cachait, persécutés, poursuivis, traqués, sans église, sans sanctuaire, sans asile quelconque, lui avaient donné à garder leur saint sacrement, Et il l'avait campé dans sa poitrine, croyant qu'on ne viendrait jamais le chercher là. Bon, ils avaient une fameuse foi en elle. Il la disait une sainte. Il lui faisait croire qu'elle en était une. Il lui montait la tête et lui donnait soif du martyr. Et elle, intrépide, ardente, allait et venait et vivait hardiment, avec sa boîte à hostie sous sa bavette. Elle la portait de nuit, par tous les temps, la pluie, le vent, la neige, le brouillard, à travers des chemins de perdition, aux prêtres cachés qui faisaient communier les mourants en catimini. Et un soir, nous l'y surprîmes, dans une ferme où mourait un chouan, moi et quelques bons garçons des colonnes infernales de Rossignol. Il y en eut un qui, tenté par ses maîtres, avant-poste de chair vive, voulut prendre des libertés avec elle. Mais il n'en fut pas le bon marchand, car elle lui imprima ses 10 griffes sur la figure à une telle profondeur qu'il a dû en rester marqué pour toute sa vie. Seulement, tout en sang qu'elle le mit, le matin ne lâcha pas ce qu'il tenait, et il arracha la boîte à bon Dieu qu'il avait trouvée dans sa gorge. Et j'y comptais bien une douzaine d'hosties, que malgré ses cris et ses ruées, car elle se rua sur nous comme une furie, je fis jeter immédiatement dans l'auge au cochon. Mais il s'arrêta, faisant jabot, pour une si belle chose comme un pouls sur une tumeur qui se donnerait des airs. Mais vous avez donc vengé, messieurs les porcs de l'Évangile, dans le corps desquels Jésus-Christ fit entrer les démons, dit le vieux monsieur de Ménilgrand de sa sarcastique voix de tête. Vous avez mis le bon Dieu dans ceci à la place du diable. C'est un prêté pour un rendu.
Et en eurent-ils une indigestion, monsieur Régnan, ou bien les amateurs qui en mangèrent, demanda profondément un hideux petit bourgeois nommé Lehet, usurier à 50% de son état, et qui avait l'habitude de dire qu'en tout il faut considérer la faim. Il y eut comme un temps d'arrêt dans ce flot d'impiété grossière.
Mais toi, tu ne dis rien, Ménil, de l'histoire de l'abbé Rognan, fit le capitaine Rançonner, qui guettait l'occasion d'accrocher n'importe à quoi son histoire de la visite de Ménilgrand à l'église. Ménil ne disait rien, en effet. Il était accoudé, la joue dans sa main, sur le bord de la table, écoutant sans horripilation, mais sans goût, toutes ces horreurs débitées par des endurcis et sur lesquelles il était blasé et bronzé. Il en avait tant entendu toute sa vie dans les milieux qu'il avait traversés. Les milieux, pour l'homme, c'est presque une destinée. Au Moyen-Âge, le chevalier de Ménilgrand aurait été un croisé brûlant de foi. Au XIXe siècle, c'était un soldat de Bonaparte, à qui son incrédule de père n'avait jamais parlé de Dieu, et qui, particulièrement en Espagne, avait vécu dans les rangs d'une armée qui se permettait tout, et qui commettait autant de sacrilèges qu'à la prise de Rome, les soldats du connétable de Bourbon. Heureusement, les milieux ne sont absolument une fatalité que pour les âmes et les génies vulgaires. Pour les personnalités vraiment fortes, il y a quelque chose, ne fût-ce qu'un atome, qui échappe au milieu et résiste à son action toute puissante. Et cet atome dormait invincible dans Ménilgrand. Ce jour-là, il n'aurait rien dit. Il aurait laissé passer avec l'indifférence du bronze ce torrent de fangin pis qui roulait devant lui en bouillonnant comme un bitume de l'enfer. Mais, interpellé par Rançonner, que veux-tu que je te dise ? Fit-il, avec une lassitude qui touchait à la mélancolie. Monsieur Rognan, on n'a pas fait là une chose si crâne pour que toi, tu puisses tant l'admirer. S'il avait cru que c'était Dieu, le Dieu vivant, le Dieu vengeur, qu'il jetait au port, au risque de la foudre sur le coup de l'enfer, Sûrement, pour plus tard, il y aurait eu là du moins de la bravoure, du mépris de plus que la mort, puisque Dieu, s'il est, peut éterniser la torture. Il y aurait eu là, oui, une crânerie folle, sans doute, mais enfin, une crânerie à tenter un crâne aussi crâne que toi. Mais la chose n'a pas cette beauté-là, mon cher. Monsieur Renan ne croyait pas que ces hosties fussent Dieu. Il n'avait pas là-dessus le moindre doute. Pour lui, ce n'était que des morceaux de pain à chanter, consacrés par une superstition imbécile. Et pour lui, comme pour toi-même, mon pauvre Rançonnet, vider la boîte aux hosties dans le jeu cochon n'était pas plus héroïque que d'y vider une tabatière ou un cornet de pain à cacheter. Fit le vieux monsieur de Ménilgrand, se renversant sur le dossier de sa chaise, ajustant son fils sous sa main en visière, comme s'il le regardait tirer un coup de pistolet bien en ligne, toujours intéressé par ce que disait son fils, même quand il n'en partageait pas l'idée, et ici il la partageait. Aussi doubla-t-il son « Il y a donc ici, mon pauvre Rançonnet, reprit Ménil, disons le mot, une cochonnerie. Mais ce que je trouve beau, moi, est très beau. Ce que je me permets d'admirer, messieurs, quoique je ne crois pas non plus à grand-chose, c'est cette fille Tesson, comme vous l'appelez, monsieur Renan, qui porte ce qu'elle croit, son Dieu, sur son cœur, qui de ses deux seins de vierge fait un tabernacle à ce Dieu de toute pureté, et qui respire et qui vit, et qui traverse tranquillement toutes les vulgarités et tous les dangers de la vie avec cette poitrine intrépide et brûlante, surchargée d'un Dieu, tabernacle et autel à la fois, et autel qui à chaque minute pouvait être arrosé de son propre sang. Toi, Rançonnet, toi, Maugravert, toi, Cellune, et moi aussi, nous avons tous eu l'empereur sur la poitrine, puisque nous avions sa légion d'honneur, et cela nous a parfois donné plus de courage au feu de l'y avoir. Mais elle, ce n'est pas l'image de son Dieu qu'elle a sur la sienne. C'en est pour elle la réalité. C'est le Dieu substantiel qui se touche, qui se donne, qui se mange et qu'elle porte au prix de sa vie à ceux qui ont faim de ce Dieu-là. Eh bien, ma parole d'honneur, je trouve cela tout simplement sublime. Je pense de cette fille comme en pensaient les prêtres qui lui donnaient leur Dieu à porter. Je voudrais savoir ce qu'elle est devenue. Elle est peut-être morte, mais peut-être vit-elle, misérable, dans quelque coin de campagne. Mais je sais bien que, fussé-je maréchal de France, si je la rencontrais, cherchât-elle son pain les pieds nus dans la fange, je descendrais de cheval, et je lui ôterais respectueusement mon chapeau à cette noble fille, comme si c'était vraiment Dieu qu'elle eût encore sur le cœur. Henri IV, un jour, ne s'est pas agenouillé dans la boue devant le Saint-Sacrement qu'on portait à un pauvre, avec plus d'émotion que moi. Je ne m'agenouillerais devant cette fille-là. Il n'avait plus la joue sur la main. Il avait rejeté sa tête en arrière. Et pendant qu'il parlait de s'agenouiller, il grandissait, comme la fiancée de Corinthe dans la poésie de Goethe, il semblait, sans s'être levé de sa chaise, grandi du buste jusqu'au plafond. C'est donc la fin du monde, dit Maugravert en cassant un noyau de pêche avec son poing fermé, comme avec un marteau. Des chefs d'escadron de hussards à genoux maintenant devant des dévotes. Mais encore, dit Rançonnet, encore, si c'était comme l'infanterie devant la cavalerie, pour se relever et passer sur le ventre à l'ennemi. Après tout, ce ne sont pas là de désagréables maîtresses que ces diseuses d'Orémus, que toutes ces mangeuses de bon Dieu, qui se croient damnées à chaque bonheur qu'elles nous donnent et que nous leur faisons partager. Mais, capitaine Maugravert, il y a pis pour un soldat que de mettre à mal quelques bigotes. C'est de devenir dévot soi-même, comme une poule mouillée de Pékin quand on a traîné le bancal. pas plus tard que dimanche dernier. Ou pensez-vous, messieurs, qu'à la tombée du jour, j'ai surpris le commandant Méliligrand ici présent ? Personne ne répondit. On cherchait, mais de tous les points de la table, les yeux convergeaient vers le capitaine Ansonnet. Mais par mon sabre, dit Ansonnet, je l'ai rencontré. Non pas rencontré, car je respecte trop mes bottes pour les traîner dans le crottin de leur chapelle, mais je l'ai aperçu de dos, qui se glissait dans l'église, en se courbant sous la petite porte basse du coin de la place. Étonné, ébahi. Mais sacrebleu, me suis-je dit, ai-je la berlue ? Mais c'est la tournure de Méliligrand, ça. Mais que va-t-il donc faire dans une église, Méliligrand ? L'idée me regaloppa au cerveau de nos anciennes farces amoureuses avec les satanées béguines des églises d'Espagne. Tiens, fis-je, ce n'est donc pas fini. Ce sera encore de la vieille affluence de jupons. Seulement, que le diable m'arrache les yeux avec ses griffes si je ne vois pas la couleur de celui-ci. Et j'entrai dans leur boutique à Metz. Malheureusement, il y faisait noir comme dans la gueule de l'enfer. On y marchait, on y trébuchait sur de vieilles femmes à genoux qui marmottaient leurs patenôtres, impossible de rien distinguer devant soi. Lorsque, à force de tâtonner pourtant dans cet infernal mélange d'obscurité et de carcasses de vieilles dévotes en prière, ma main rattrapa mon ménil qui filait déjà le long de la contre-allée. Mais croirez-vous bien qu'il ne voulut jamais me dire ce qu'il était venu faire dans cette galère d'église. Voilà pourquoi je vous le dénonce aujourd'hui, messieurs, pour que vous le forciez à s'expliquer. Allons et parle, Ménil, justifie-toi, réponds à Ansonnet, cria-t-on de tous les coins de la salle. Me justifier, dit Ménil gaiement, mais n'ai à me justifier de faire ce qui me plaît. Vous qui clamaudez à cœur de journée contre l'Inquisition, est-ce que vous êtes des inquisiteurs en sens inverse, à présent ? Je suis entré dans l'église dimanche soir parce que cela m'a plu. Et pourquoi cela t'a-t-il plu ? Fit Mautravers, car si le diable est logicien, un capitaine de cuirassier peut bien l'être aussi. Ah, voilà, dit Méliligrand riant. J'y allais, qui sait, peut-être à confesse. Mais j'ai du moins fait ouvrir la porte d'un confessionnal. Mais tu ne peux pas dire en sonnet que ma confession est trop durée. Ils voyaient tous bien qu'ils se jouaient d'eux. Mais il y avait dans cette jouerie quelque chose de mystérieux qui les agaçait. Ta confession, oh, 1 000 000 000 de flammes, ton plongeon serait donc fait ? Dit tristement Ansonnet, terrassé, qui prenait la chose au tragique. Puis, se rejetant devant sa pensée et se renversant comme un cheval cabré, mais non, cria-t-il, tonnerre de tonnerre, c'est impossible. Voyez-vous, vous autres, le chef d'escadron, Méliligrand, à confesse, comme une vieille bonne femme, à deux joues sur le strapontin, le nez au guichet, dans la guérite d'un prêtre. Voilà un spectacle qu'il m'entrera jamais dans le crâne. 30 000 balles plutôt. Tu es bien beau, je te remercie, fit Méliligrand, avec une douceur comique. La douceur d'un agneau. Parlons sérieusement, dit Mautravers. Je suis comme Ansonnet. Je ne croirai jamais à une capucinade d'un homme de ton calibre, mon brave Ménil. Même à l'heure de la mort, les gens comme toi ne font pas un saut de grenouille effrayé dans un baquet d'eau bénite. À l'heure de la mort, je ne sais pas ce que vous ferez, messieurs, répondit lentement Méliligrand. Mais, quant à moi, avant de partir pour l'autre monde, je veux faire à tout risque mon porte-manteau. » Et ce mot d'officier de cavalerie fut si gravement dit qu'il y eut un silence, comme celui du pistolet qui tirait il n'y a qu'une minute et tapageait dont la détente a cassé. Laissons cela, du reste, continua Manny le Grand. Vous êtes, à ce qu'il paraît, encore plus abruti que moi par la guerre et par la vie que nous avons menée tous. Je n'ai rien à dire à la crédulité de vos armes. Et puisque toi, Ancelet, tu tiens toute force à savoir pourquoi ton camarade Manny le Grand, que tu crois aussi athée que toi, est entré l'autre soir à l'église, je veux bien, et je vais te le dire. Il y a une histoire là-dessous. Quand elle sera dite, tu comprendras peut-être, même sans croire à Dieu, qu'il y soit entré. Il fit une pause, comme pour donner plus de solennité à ce qu'il allait raconter, puis il reprit. Mais tu parlais de l'Espagne, Rancenet. C'est justement en Espagne que mon histoire s'est passée. Plusieurs d'entre vous y ont fait la guerre fatale qui, dès 1808, commença le désastre de l'Empire et tous nos malheurs. Ceux qui l'ont faite, cette guerre-là, ne l'ont pas oubliée, et toi, par parenthèse, moins que personne, comme on en sait l'une. Tu en as le souvenir gravé assez avant sur la figure pour que tu ne puisses pas l'effacer. Le commandant Cellune, assis auprès du vieux monsieur de Ménil-Grand, faisait face à Ménil. C'était un homme d'une forte stature militaire et qui méritait de s'appeler le Balafré encore plus que le duc de Guise, car il avait reçu en Espagne, dans une affaire d'avant-poste, un immense coup de sabre courbe, si bien appliqué sur sa figure qu'elle en avait été fendue, nez et tout, en écharpe, de la tempe gauche jusqu'au-dessous de l'oreille droite. À l'état normal, ce n'aurait été qu'une terrible blessure d'un assez noble effet sur le visage d'un soldat, mais le chirurgien, qui avait rapproché les lèvres de cette plaie béante, pressé ou maladroit, les avait mal rejointes. Et à la guerre comme à la guerre. On était en marche et... pour en finir plus vite, il avait coupé avec des ciseaux le bourrelet de chair qui débordait de deux doigts d'un des côtés de la plaie fermée. Ce qui fit, non pas un sillon dans le visage de Cellune, mais un épouvantable ravin. C'était horrible, mais après tout, grandiose. Quand le sang montait au visage de Cellune, qui était violent, la blessure rougissait et c'était comme un large ruban rouge qui lui traversait sa face bronzée. « Tu portes, lui disait Ménil au jour de leurs communes ambitions, ta croix de grand officier de la Légion d'honneur sur la figure avant de l'avoir sur la poitrine. Mais sois tranquille, elle y descendra. » Elle n'y était pas descendue. L'Empire avait fini avant. Cellune n'était que chevalier. « Eh bien, messieurs, continua Ménil le Grand, nous avons vu des choses bien atroces en Espagne, n'est-ce pas? Et même, nous en avons fait. Mais je ne crois pas avoir vu rien de plus abominable que ce que je vais avoir l'honneur de vous raconter. Pour mon compte, dit nonchalamment Cellune, avec la fatuité d'un vieil endurci qui n'entend pas qu'on l'émeuve de rien, pour mon compte, j'ai vu un jour 80 religieuses jeter l'une sur l'autre à moitié mortes dans un puits, après avoir été préalablement très bien violées, chacune par deux escadrons. Brutalité de soldat, fit Ménil le Grand froidement, mais voici du raffinement d'officier. Il trempa sa lèvre dans son verre et son regard cerclant la table et l'étreignant. Y a-t-il quelqu'un d'entre vous, messieurs, demanda-t-il, qui ait connu le major Idaho? Personne ne répondit, excepté Rancenet. Ah, il y a moi, dit-il. Le major Ido, si je l'ai connu. Oh, oh, il parbleu. Il était avec moi au 8e dragon. Mais puisque tu l'as connu, reprit Ménil Grand, tu ne l'as pas connu seul. Il était arrivé au 8e dragon arboré d'une femme. Ah, la Rosalba, dites la Poudica, fit Rancenet, sa fameuse. et il dit le mot crûment. « Oui, repartit Ménilgrand pensivement, car une pareille femme ne méritait pas le nom de maîtresse, même de celle d'Ido. Le major l'avait amené d'Italie, où, avant de venir en Espagne, il servait dans un corps de réserve avec le grade de capitaine. Comme il n'y a ici que toi, Rançonnet, qui l'ai connu, ce major Ido, tu me permettras bien de le présenter à ces messieurs et de leur donner une idée de ce diable d'homme dont l'arrivée au 8e dragon tapagea beaucoup quand il y entra avec cette femme en sautoir. Il n'était pas français, à ce qu'il paraît, oh, ce n'est pas tant pis pour la France. Il était né je ne sais où et de je ne sais qui, en Illyrie ou en Bohême, je ne suis pas bien sûr. Mais, où qu'il fût né, il était étrange, ce qui est une manière d'être étranger partout. On aurait cru le produit d'un mélange de plusieurs races. Il disait, lui, qu'il fallait prononcer son nom à la grecque pour Ido, parce qu'il était d'origine grecque. Et sa beauté l'aurait fait croire, car il était beau, et le diable m'emporte, peut-être trop pour un soldat. Qui sait si on ne tient pas moins à se faire casser la figure quand on l'a aussi belle? On a pour soi le respect qu'on a pour les chefs-d'œuvre. Tout chef-d'œuvre qu'il fût, cependant, il allait au feu avec les autres. Mais quand on avait dit cela du major Ido, on avait tout dit. Il faisait son devoir, mais il ne faisait jamais plus que son devoir. Il n'avait pas ce que l'empereur appelait le feu sacré. Malgré sa beauté, dont je convenais très bien, d'ailleurs, je lui trouvais au fond une mauvaise figure sous ses traits superbes. Depuis que j'ai traîné dans les musées, où vous n'allez jamais, vous autres, j'ai rencontré la ressemblance du major Ido. Je l'ai rencontré très frappante dans un des bustes d'Antinous. Tenez, de celui-là auquel le caprice ou le mauvais goût du sculpteur incrusté deux émeraudes dans le marbre des prunelles. Et au lieu de marbre blanc, les yeux verts de mer du major éclairaient un teint chaudement olivâtre et un angle facial irréprochable. Mais, dans la lueur de ces mélancoliques étoiles du soir, qui étaient ses yeux, ce qui dormait si voluptueusement, ce n'était pas Endymion. C'était un tigre, et un jour je l'ai vu s'éveiller. Le major Ido était en même temps brun et belon. Ses cheveux bouclaient très noirs et très serrés autour d'un front petit, aux tempes renfolées, tandis que sa longue et soyeuse moustache avait le blond fauve et presque jaune de la martre Zibeline. Signe, dit-on, de trahison ou de perfidie, qu'une chevelure et une barbe de couleurs différentes. Traître, oh, le major l'aurait peut-être été plus tard. Il eût peut-être, comme tant d'autres, trahi l'empereur, mais il ne devait pas en avoir le temps. Quand il vint au 8e dragon, il n'était probablement que faux et encore pas assez pour ne pas en avoir l'air, comme le voulait le vieux malin de Souvarov qui s'y connaissait. Fût-ce cet air-là qui commença son impopularité parmi ses camarades, toujours est-il qu'il devint en très peu de temps la bête noire du régiment. Très fade d'une beauté à laquelle j'aurais préféré moi bien des laideurs de ma connaissance, il me semblait n'être, en somme, comme disent soldatesquement les soldats, qu'un miroir à ce que tu viens de nommer, Rançonnet, à propos de la Rosalba. Le major Ido avait 35 ans. Vous comprenez bien qu'avec cette beauté qui plaît à toutes les femmes, même aux plus fières, c'est leur infirmité, le major Ido avait dû être horriblement gâté par elle et chamarré de tous les vices qu'elle donne. Mais il avait aussi, disait-on, ce qu'elle ne donne pas et dont on se chamarre moins. Certes, nous n'étions pas, comme tu le dirais, en sonnet des capucins dans ce temps-là. Nous étions même d'assez mauvais sujets, joueurs, libertins, coureurs de filles, duelliste, ivrogne au besoin et mangeur d'argent sous toutes les espèces. Nous n'avions guère le droit d'être difficiles. Eh bien, tels que nous étions alors, ils passaient pour bien pire que nous. Nous, il y avait des choses, pas beaucoup, mais enfin, il y en avait bien une ou deux, donc, si démons que nous fussions, nous n'aurions pas été capables. Mais lui, prétendait-on, il était capable de tout. Je n'étais pas dans le 8e dragon, seulement j'en connaissais tous les officiers. Ils parlaient de lui cruellement. Ils l'accusaient de servilité avec les chefs et de basse ambition. Ils suspectaient son caractère. Ils allèrent même jusqu'à le soupçonner d'espionnage, et même il se battit courageusement deux fois pour ce soupçon contre-exprimé. Mais l'opinion n'en fut pas changée. Il est toujours resté sur cet homme une brume qui n'a pu dissiper. De même qu'il était brun et blond à la fois, ce qui est assez rare, il était aussi à la fois heureux au jeu et heureux en femme, ce qui n'est pas l'usage non plus. On lui faisait payer bien cher ces bonheurs-là, du reste. Ses doubles succès, ses airs à la Lauzin, la jalousie qu'inspirait sa beauté, car les hommes ont beau faire les forts et les indifférents, quand il s'agit de laideur et répéter le mot consolant qu'ils ont inventé, qu'un homme est toujours assez beau quand il ne fait pas peur à son cheval, ils sont entre eux aussi petitement et lâchement jaloux que les femmes entre elles. Tout cet ensemble d'avantages était l'explication, sans doute, de l'antipathie dont il était objet. Antipathie qui, par haine, affectait les formes du mépris, car le mépris outrage plus que la haine, et la haine le sait bien. Que de fois ne l'ai-je pas entendu traiter, entre le haut et le bas de la voix, de dangereuse canaille. Quoique, s'il eût fallu prouver clairement qu'il en était une, on ne l'eût certainement pas pu. Et de fait, messieurs, encore au moment où je vous parle, il est incertain pour moi que le major Hideau fût ce qu'on disait qu'il était. Mais tonnerre, ajouta Manilgrand avec une énergie mêlée à une horreur étrange, ce qu'on ne disait pas est ce qu'il a été un jour, je le sais, et cela me suffit. Cela nous suffira aussi probablement, dit gaiement Ansonnet. Mais sacrebleu, quel diable de rapport peut-il y avoir entre l'église où je t'ai vu entrer dimanche soir et ce damné major du 8e dragon qui aurait pillé toutes les églises et toutes les cathédrales d'Espagne et de la chrétienté pour faire des bijoux à sa coquine de femme avec l'or et les pierres précieuses des saints sacrements. Reste donc dans le rang, Ansonnet, dit Ménil comme s'il eût commandé un mouvement à son escadron. Et tiens-toi tranquille. Tu seras donc toujours la même tête chaude et partout impatient, comme devant l'ennemi. Laisse-moi manœuvrer, comme je l'entends, mon histoire. Eh bien, marche, fit le bouillant capitaine, qui, pour se calmer, lampa un verre de picardant. Et Ménilgrand reprit. Il est bien probable que, dans cette femme qu'il suivait et qu'on appelait sa femme, quoiqu'elle ne fût que sa maîtresse et qu'elle ne portât pas son nom, le major Hideau eut peu frayé avec les officiers du 8e dragon. Mais cette femme, qu'on supposait tout ce qu'elle était pour s'être agrafée à un pareil homme, empêcha qu'on ne fît autour du major le désert qu'on aurait fait sans elle. J'ai vu cela dans les régiments. Un homme y tombe en suspension ou en discrédit, on n'a plus avec lui que de stricts rapports de service, on ne camarade plus, on n'a plus pour lui de poignée de main. Au café même, ce caravansérail d'officier, dans l'atmosphère chaude et familière du café, où toutes les froideurs se fondent, on reste à distance, contraint et poli jusqu'à ce qu'on ne le soit plus et qu'on éclate, s'il vient le moment d'éclater. Vraisemblablement, c'est ce qui serait arrivé au major, mais une femme, c'est l'aimant du diable. Ce qu'il n'aurait pas vu pour lui, ils le virent pour elle. Qui n'aurait pas au café ouvert un verre de schnick au major dédoublé de sa femme, le lui offrait en pensant à sa moitié et en calculant que c'était là un moyen d'être invité chez lui ou serait possible de la rencontrer. Il y a une proportion d'arithmétique morale écrite avant qu'elle le fût par un philosophe sur du papier dans la poitrine de tous les hommes comme un encouragement du démon. C'est qu'il y a plus loin d'une femme à son premier amant que de son premier au 10e. C'était à ce qu'il semblait plus vrai avec la femme du major qu'avec personne. Puisqu'elle s'était donnée à lui, elle pouvait bien se donner à un autre. Et ma foi, tout le monde pouvait être cet autre-là. En attendant fort court au 8e dragon, on sut combien il y avait peu d'audace dans cette espérance. Pour tous ceux qui ont le flair de la femme et qui en respirent la vraie odeur à travers tous les voiles blancs et parfumés de vertu dans lesquels elle s'entortille, la Rosalba fut reconnue tout de suite pour la plus corrompue des femmes corrompues. Oh, dans le mal, une perfection! Je ne la calomnie pas, n'est-ce pas, Ansonnet? Tu l'as eu peut-être, et si tu l'as eu, tu sais maintenant s'il fut jamais une plus brillante, une plus fascinante cristallisation de tous les vices. Où le major l'avait-il prise? D'où sortait-elle? Elle était si jeune. On n'osa pas tout d'abord se le demander, mais ce ne fut pas long, l'hésitation. L'incendie, car elle n'incendia pas que le 8e dragon, mais mon régiment de hussards à moi. Moi aussi, tu t'en souviens, Ansonnet, tous les états-majors du corps d'expédition dont nous faisions partie. L'incendie qu'elle alluma prit très vite d'étranges proportions. Nous avions vu bien des femmes maîtresses d'officiers, et suivant les régiments, quand les officiers pouvaient se payer le luxe d'une femme dans leur bagage, les colonels fermaient les yeux sur cet abus et quelquefois se le permettaient. Mais de femmes à la façon de cette Rosalba, nous n'en avions pas même l'idée. Nous étions accoutumés à de belles filles, si vous voulez, mais presque toujours du même type, décidées, hardies, presque masculines, presque effrontées. Le plus souvent de belles brunes, plus ou moins passionnées, qui ressemblaient à de jeunes garçons, très piquantes et très voluptueuses sous l'uniforme que la fantaisie de leurs amants leur faisait porter quelquefois. Si les femmes d'officiers légitimes et honnêtes se reconnaissent des autres femmes par quelque chose de particulier, commun à elles toutes, et qui tient au milieu militaire dans lequel elles vivent, ce quelque chose-là est bien autrement marqué dans les maîtresses. Mais la Rosalba du major Hideau n'avait rien de semblable aux aventurières de troupes et aux suiveuses de régiments dont nous avions l'habitude. Au premier abord, c'était une grande jeune fille pâle, mais qui ne restait pas longtemps pâle, comme vous allez voir, avec une forêt de cheveux blonds. Voilà tout. Il n'y avait pas de quoi s'écrier. Sa blancheur de teint n'était pas plus blanche que celle de toutes les femmes à qui un sang frais et sain passe sous la peau. Ses cheveux blonds n'étaient pas de ce blond étincelant qui a les fulgurances métalliques de l'or ou les teintes molles et endormies de l'ambre gris que j'ai vu à quelques Suédoises. Non, elle avait le visage classique, qu'on appelle un visage de camé, mais qui ne différait pas par aucun signe particulier de cette sorte de visage si impatientant pour les hommes passionnés, avec son invariable correction et son unité. Au prendre ou au laisser, c'était certainement ce qu'on peut appeler une belle fille dans l'ensemble de sa personne. Mais les filtres qu'elle faisait boire n'étaient point dans sa beauté. Ils étaient ailleurs. Ils étaient, vous ne devineriez jamais qu'ils fussent, dans ce monstre d'impudicité qui osait s'appeler Rosalba, qui osait porter ce nom immaculé de Rosalba, qu'il ne faudrait donner qu'à l'innocence, et qui, non contente d'être la Rosalba, la rose et blanche, s'appelait encore la pudique, la pudica, par-dessus le marché. Virgile aussi s'appelait le pudique, et il a écrit le Corridor Ardebat Alexim, un sinois régnant, qui n'avait pas oublié son latin. Et ce n'était pas une ironie, continua Ménil le Grand, que ce surnom de Rosalba, qui ne fut point inventé par nous, mais que nous fûmes dès le premier jour sur son front, où la nature l'avait écrit avec toutes les roses de sa création. La Rosalba n'était pas seulement une fille de l'air le plus étonnamment pudique pour ce qu'elle était, c'était positivement la pudeur elle-même. Elle eût été pure comme les vierges du ciel qui rougissent peut-être sous le regard des anges, qu'elle n'eût pas été plus la pudeur. Qui donc a dit, oh, ça doit être un Anglais, que le monde est l'œuvre du diable devenu fou? C'était sûrement ce diable-là qui, dans un accès de folie, avait créé la Rosalba pour se faire le plaisir du diable de fricasser l'une après l'autre la volupté dans la pudeur et la pudeur dans la volupté, et de pimenter avec un condiment céleste le ragoût infernal des jouissances qu'une femme puisse donner à des hommes mortels. La pudeur de la Rosalba n'était pas une simple physionomie, laquelle, par exemple, aurait celle-là renversé de fond en comble le système de l'avatère. Non ! Chez elle, la pudeur n'était pas le dessus du panier. Elle était aussi bien le dessous que le dessus de la femme, et elle frissonnait et palpitait en elle autant dans le sang qu'à la peau. Ce n'était pas non plus une hypocrisie. Jamais le vice de Rosalba ne rendit cet hommage, pas plus qu'un autre à la vertu. C'était réellement une vérité. La Rosalba était pudique comme elle était voluptueuse. Et le plus extraordinaire, c'est qu'elle l'était en même temps. Quand elle disait ou faisait les choses les plus osées, elle avait d'adorables manières de dire « j'ai honte, que j'entends encore ». Phénomène inouï, on était toujours au début avec elle, même après le dénouement. Elle fut sortie d'une orgie de bacchante comme l'innocent de son premier péché. Jusque dans la femme vaincue, pâmée, à demi-morte, on retrouvait la Vierge confuse, avec la grâce toujours fraîche de ses troubles et le charme auroral de ses rougeurs. Jamais je ne pourrais vous faire comprendre les raffolements que ces contrastes vous mettaient au cœur. Le langage périrait à exprimer cela. Il s'arrêta. Il y pensait et ils y pensaient. Avec ce qu'il venait de dire, il avait, le croira-t-on, transformé en rêveur ces soldats qui avaient vu tous les genres de feux, ces moines débauchés, ces vieux médecins, tous ces écumeurs de la vie qui en étaient revenus. L'impétueux rançonnait lui-même ne souffla mot. Il se souvenait. Vous sentez bien, reprit Méligrand, que le phénomène ne fut connu que plus tard. Mais tout d'abord, quand elle arriva au 8e dragon, on ne vit qu'une fille extrêmement jolie, quoique belle dans le genre, par exemple, de la princesse Pauline Borghese, la sœur de l'empereur, à qui du reste elle ressemblait. La princesse Pauline avait aussi l'air idéalement chaste, et vous savez tous de quoi elle est morte. Mais Pauline n'avait pas en toute sa personne une goutte de pudeur pour teinter de rose la plus petite place de son corps charmant, tandis que la Rosalba en avait assez dans les veines pour rendre écarlate toutes les places du sien. Le mot naïf et étonné de la Borghese, quand on lui demanda comment elle avait bien pu poser nue devant Canova. Oh, mais l'atelier était chaud, il y avait un poêle. La Rosalba ne l'eût jamais dit. Si on lui eût adressé la même question, elle se serait enfouie en cachant son visage divinement pourpre dans ses mains divinement rosées. Seulement, soyez bien sûr qu'en s'en allant, il aurait eu par derrière à sa robe un pli dans lequel auraient niché toutes les tentations de l'enfer. Telle était donc cette Rosalba, dont le visage de vierge nous pipa tous quand elle arriva au régiment. Le major Ido aurait pu nous la présenter comme sa femme légitime et même comme sa fille, que nous l'aurions cru. Quoique ses yeux d'un bleu limpide fussent magnifiques, ils n'étaient jamais plus beaux que quand ils étaient baissés. L'expression des paupières l'emportait sur l'expression du regard. Pour des gens qui avaient roulé la guerre et les femmes, et quelles femmes, ce fut une sensation nouvelle que cette créature à qui, comme on dit avec une expression vulgaire, mais énergique, on aurait donné le bon Dieu sans confession. Quelle sacrée jolie fille, se soufflaient à l'oreille les anciens, les vieux routiers. Mais quelle mijaurée! Mais comment s'y prend-elle pour rendre le major heureux? Il le savait, lui, et il ne le disait pas. Il buvait son bonheur en silence, comme les vrais ivrognes qui boivent seuls. Il ne renseignait personne sur la félicité cachée, qui le rendait discret et fidèle pour la première fois de sa vie, lui, le lauzin de garnison, le fat le plus carabiné, le plus fastueux, et qu'à Naples, rapportaient des officiers qu'il y avait connus, on appelait le tambour-major de la séduction. Sa beauté, dont il était si vain, aurait fait tomber toutes les filles d'Espagne à ses pieds, qui n'en eût pas ramassé une. À cette époque, nous étions sur les frontières de l'Espagne et du Portugal, les Anglais devant nous, et nous occupions dans nos marches les villes les moins hostiles au roi Joseph. Le major Ido et la Rosalba y vivaient ensemble, comme ils eussent fait dans une ville de garnison en temps de paix. Vous vous souvenez des acharnements de cette guerre d'Espagne, de cette guerre furieuse et lente, qui ne ressemblait à aucune autre, car nous ne nous battions pas ici simplement pour la conquête, mais pour implanter une dynastie et une organisation nouvelle dans un pays qu'il fallait d'abord conquérir. Aucun de vous n'a oublié qu'au milieu de ces acharnements, il y avait des pauses, et que dans l'entre-deux des batailles les plus terribles au sein de cette contrée envahie dont une partie était à nous, nous nous amusions à donner des fêtes aux Espagnols le plus afrancescadas des villes que nous occupions. C'était dans ces fêtes que la femme du major Ido, comme on disait, déjà fort remarquée, passa à l'état de célébrité. Et de fait, elle se mit à briller au milieu de ses filles brunes d'Espagne comme un diamant dans une torsade de jais. Ce fut là qu'elle commença de produire sur les hommes ses effets d'enchantement qui tenaient sans doute à la composition diabolique de son être et qui faisaient d'elle la plus enragée des courtisanes avec la figure d'une des plus célestes madones de Raphaël. Alors les passions s'allumèrent et allèrent leur train, faisant leur feu dans l'ombre. Au bout d'un certain temps, tous flambèrent, même des vieux, même des officiers généraux qui avaient l'âge d'être sages, tous flambèrent pour la pudica, comme on trouva piquant de l'appeler. Partout et autour d'elle, les prétentions s'affichèrent, puis les coquetteries, puis l'éclat des duels, enfin, tout le tremblement d'une vie de femme devenue le centre de la galanterie la plus passionnée, au milieu d'hommes indomptables qui avaient toujours le sabre à la main. Elle fut le sultan de ces redoutables odalisques, et elle jeta le mouchoir qui lui plut, et beaucoup lui plurent. Quant au major Ido, il laissa faire et laissa dire.